Le deuxième message que Agée va apporter de la part de Dieu, nous le trouvons au chapitre 2 de son livre. Agée chapitre 2, les versets 1 à 10. Où on va lire 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète en ces mots. « Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le peuple s'est mis en route. On va travailler. Ce que le premier message a apporté a trouvé un écho dans les cœurs, a trouvé un écho dans les bras. On travaille, on se met en route. Et quelque temps après, voilà que le prophète intervient, et il intervient à l'occasion d'une fête. Probablement à la fête des tabernacles, il est là, les gens sont rassemblés, et Dieu l'envoie, et tout de suite, nous allons sentir une légère différence. Vous vous souvenez, premier chapitre, « Ainsi parle l'Éternel ». Ici, on a un adoucissement, « Parole de l'Éternel ». La parole de l'Éternel fut adressée à, ce n'est plus avec l'autorité pour reprocher, mais c'est une autorité plutôt, je dirais, pastorale. Paternel. Il vient avec une parole, et quel genre de parole? Une parole d'encouragement. Et quand je regarde ce texte, je me dis, à qui ça s'adresse? À notre Zorobabel, on va en reparler, puisqu'il y a la fin du chapitre qui lui est consacré, Josué, le souverain sacrificateur, et puis une petite nuance ici, et au reste du peuple. Ce qui laisse supposer facilement que tout le monde n'a pas continué. La Bible est très réaliste, hein. Elle met en évidence, voilà, ils sont partis, tout le peuple apparemment semble décidé, et puis après quelque temps, il y en a qui arrêtent. J'ai entendu, je crois que c'est l'année dernière, lors d'une rencontre, je crois que c'était à la convention, mais je ne suis plus sûr, où le prédicateur a dit, nous sommes nombreux aujourd'hui, mais dans 5 ans, la moitié d'entre vous, vous ne serez plus là. C'était, c'est sorti comme ça. Pourquoi? Non pas parce que vous serez mort, mais parce que vous allez arrêter, vous allez abandonner. Parce qu'on sait bien qu'il faut être pratique, il faut être concret. Tout le monde, malheureusement, ne persévère pas. Faites le tour de tous ceux qui sont venus dans l'Église depuis qu'elle existe. C'est incroyable le nombre de personnes qui fréquentent, qui passent. Certains ne font que passer, d'autres trépassent, et puis il y en a d'autres qui restent pour un petit temps, et puis après on ne les voit plus. Mais il y a cette notion du reste, tous n'ont pas travaillé, mais il vient, et il vient avec un message d'encouragement. Il ne vient pas seulement pour les secouer et dire, regardez, vous ne faites rien, il faut faire ceci, il faut faire cela, il y a autre chose. Et il faut comprendre un petit peu la situation du peuple. Rebâtir un temple. c'est pas une œuvre facile. Le temple de Jérusalem, le temple construit par Salomon, c'était remarquable. Quand on regarde dans les livres de Samuel, des chroniques, les histoires, les rois, on se rend compte que, mais il a investi les milliers de personnes qui travaillaient, des esclaves qu'il faisait, des gens qui taillaient les pierres, qui taillaient le bois. Vous vous rendez compte que pour construire ce temple, il n'y a eu aucun pratiquement coup de marteau donné à Jérusalem même. On taillait les pierres sur place à l'extérieur et on les amenait pour... Il y a une idée de grandeur, de splendeur, des richesses étonnantes. Certains ont estimé que le bâtiment qui était là revenait à plusieurs millions d'euros. Tout le temple, quand on considère tout, des millions, des pierres taillées, de l'or, des bijoux, de l'argent... Des sommes colossales qui ont été investies par Salomon. Alors, tout ça est tombé en ruine. Tout ça a été détruit, dévalisé. Qu'est-ce qui reste? Plus rien. Et il faut rebâtir. Et quand on veut rebâtir, on se dit, mais on n'a pas les moyens que Salomon avait. On n'a plus la vision de Salomon. On n'a plus les richesses de Salomon. On n'arrivera jamais à faire aussi bien qu'avant. La gloire de cette première maison, quel est le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment vous la voyez maintenant? Ben, on la voit mal. On la voit inexistante. On la voit impossible à réaliser. On ne fera jamais aussi bien. On va construire un temple, mais ce ne sera pas comme du temps de Salomon. C'est une tâche immense. Et le peuple va quand même considérer les choses. Et il y a, vous me pardonnez si je reviens avec Esdras, parce que Esdras, c'est ce livre qui donne la toile de fond. Reprenez le livre d'Esdras, si vous le voulez bien. Tantôt, je lisais le chapitre 3. Je continue le chapitre 3, les versets 8 et suivants. La deuxième année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au deuxième mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre. Ils chargèrent les lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmel, avec ses fils de Juda, les frères de Henadat avec leurs fils et les frères, les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant, louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dura toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites, des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer les bruits des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Tout simplement parce que on voit que quand ils vont s'y mettre, ils vont faire cela vraiment en grande pompe. Parce que quand on a commencé, ah, ça devait être bien. Et puis nous avons deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont là et qui rient, et d'autres qui pleurent. Quels sont ceux qui pleurent? Le texte le dit, ce sont les vieux. Pardonnez-moi les vieux. Je m'adresse, hein. Ils sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce que eux ont vu le temple. Ils ont vu la splendeur. Ils ont vu tout ce qu'il y avait. Et ils sont là en disant, oui, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils comparent avec le passé. Tandis que les autres, on suppose les jeunes, puisqu'on a parlé des vieux. Eux, ils rient. Ils sont contents, parce qu'eux, ils voient le futur. Ils voient l'avenir. Et j'aimerais peut-être, si vous permettez, mettre l'accent. Nous qui sommes les plus vieux, nous avons peut-être une tendance à comparer avec le passé. De mon temps, c'était mieux. De mon temps, c'était bien. Oui, c'était bien. Et vous regardez la situation aujourd'hui et vous êtes en train de pleurer. Mais pensez que les jeunes, ils ont un défi devant eux. Et eux, ils sont prêts à le prendre. Ils sont prêts à foncer. Contrairement à ce qu'on croit, tous les jeunes ne sont pas des fainéants, des gens qui s'en fichent. Nous avons des jeunes dans nos églises qui en veulent, qui peuvent être motivés et qui peuvent, on va leur mettre un défi, ils sont prêts à le relever. Et c'est là où il faut les aider. On ne doit pas décourager les jeunes parce que de notre temps, parce que avant, vous voyez un peu, il y a quelque chose dans nos églises qui joue parfois. On compare avec le passé et ça démoralise les jeunes. Alors, on a eu un passé, on s'en réjouit, mais ce passé est devenu le présent. Et le présent, il faut aider les jeunes, il faut les encourager, il faut... Allez-y les jeunes, vous avez un défi fantastique, foncez. Foncez, réjouissez-vous d'avoir part à l'œuvre de Dieu et ayez cette vision. Et dans ce sens-là, quand il y a des camps, priez pour les jeunes au camp. Vous savez, c'est mine de rien. Personnellement, c'est dans un camp à Limoges que je me suis converti. La première fois que j'ai entendu parler de Jésus, je le connaissais avant, parce que j'allais à l'école du dimanche. J'ai grandi dans le temple. Alors, j'étais tellement sage que ma mère a vu que j'avais ma première dent quand je dormais la bouche ouverte pendant le culte. Ah, sa première dent, ben, j'étais sage, hein. Mais c'est pour vous dire que c'est pas d'hier. Et puis je suis allé au camp, et c'est de la faute du papa Jaco, c'est lui qui m'a conduit. Et puis là, on parle de Jésus, le sauveur. Ce n'était pas simplement le faiseur de miracles qui guérissait les malades et tout. Non, il était sauveur. Et à ce moment-là, j'ai mis ma main dans la main du Seigneur. Mais je l'ai vite lâché. Et puis... j'ai eu une adolescence assez perturbée, difficile, je l'ai dit. Je ne m'en cache pas. J'étais un sale gamin. Jusqu'au jour où je suis allé au camp. C'était mon dernier camp de garçon. Et je suis allé dans l'esprit de chahuter, de chambarder et de fiche en l'air. C'était mon dernier camp. Qu'est-ce qu'ils allaient me faire? Me dire que je ne pouvais plus aller? J'étais là d'une demi-heure quand le directeur m'a appelé. Et ma première action quand on est venu dire, le directeur t'appelle, mais j'ai encore rien fait. Et puis il m'a dit, écoute, on a un petit problème, il nous manque un moniteur. Peut-être va-t-il arriver ce soir ou demain, mais est-ce que tu accepterais d'être le moniteur? Oui. Tout fier. Mais j'ai dû passer de l'autre côté de la barrière. On m'a confié 7 petits gosses de 7 ans, 8 ans. Il fallait que je prie, ce que je ne faisais plus. Que je montre le bon exemple. Alors j'ai assisté à la première réunion, la deuxième réunion, la troisième réunion, puis je me dis, et à un certain moment j'en ai tellement marre, mais qu'est-ce que je fiche ici? Tu n'es qu'un hypocrite. Et là le Seigneur m'a flanqué dans la figure mon hypocrisie. J'ai quitté la réunion, je suis rentré dans ma chambre, et là je me suis mis à genoux. J'ai pleuré, Seigneur j'en ai marre, je suis un dégueulasse, j'ai pas fait une belle prière très spirituelle. J'ai ouvert mon cœur, et j'ai dit, Seigneur tu vois ma vie, ben tu veux la prendre, tu la prends. Je te la donne, t'en fais ce que tu veux. Faut jamais dire ça au Seigneur, il nous prend en sérieux, il l'a prise. Et il a changé. Il a fallu tout un temps après pour stabiliser, pour avancer. Mais, vous savez, on a des défis et on est heureux de servir Dieu. Et on a des défis et on avance. Priez pour les jeunes dans les camps qui se convertissent. Mais c'est là où on va trouver des missionnaires, des évangélistes, des pasteurs. Seigneur, donne-nous des anciennes avec ces jeunes-là. Donne-nous des responsables avec ces jeunes qui sont là. c'est un défi que je vous lance parce que vous êtes proche du camp et parce que il y a l'enjeu et l'importance pour les jeunes. Et ici, Agé intervient. Et quand il intervient en disant « Fortifie-toi ». C'est ce qu'il dit à Zorobabel, c'est ce qu'il dit à Josué, c'est ce qu'il dit au reste du peuple. « Fortifie-toi, peuple tout entier, fortifie-toi ». Quand est-ce qu'on vous a dit ça? Allez, sois fort. Courage, allez, vas-y, fonce. C'est quand même précieux d'entendre ça. C'est quand même... Nous avons des chrétiens qui ont un ministère formidable du découragement. Ils savent vous démolir en deux, trois phrases. Et si on inversait le processus et si on avait un ministère d'encouragement, qui vais-je encourager? Est-ce que je n'ai pas quelqu'un à encourager? Est-ce que je n'ai pas quelqu'un à côté? Allez, prends courage. Allez, on va prier ensemble. Vas-y. C'est quand même quelque chose que vous ne trouvez pas dans le monde, cela. Ça, c'est dans le milieu chrétien, c'est dans les enfants de Dieu. Ils s'encouragent. Fortifie-toi. Ah, tu vois le passé, tu vois la difficulté. Allez, on va de l'avant. On travaille. Mais vous savez, il y a des choses qui peuvent bouger. Un encouragement. Vous ne savez pas l'impact que ça peut avoir pour quelqu'un. Ça peut bouleverser une vision, un désir, quelqu'un qui est à plat, qui est découragé. Allez, on y va. Je vais avec toi, je fais un bout de route avec toi. Mais mes amis, c'est quelque chose de formidable. Il y a une institutrice qui dans sa classe de petits bonhommes, a décidé, a dit, nous allons reprendre notre table de multiplication par 9. Et elle écrit, 1 fois 9 égale 7. 2 fois 9 égale 18. 3 fois 9 égale 27, et elle écrit toute la table. Évidemment, elle se retourne et on voit les gosses qui... Madame, vous êtes trompée. Comment je me suis trompé? Vous avez dit 1 fois 9 égale 7. Et l'institutrice a dit, je l'ai fait exprès. Vous avez relevé l'erreur, vous n'avez pas vu toutes les autres bonnes réponses. Et c'est typique chez nous. On voit l'erreur et on ne voit pas toutes les bonnes choses qu'il y a autour. On a raison de voir parfois les erreurs et de dire, bon, là, il y a une erreur, c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne sait pas aussi voir tout ce qui se fait bien? Vous entendez une prédication. Oh, il a dit ça dans sa prédication. Et vous allez pointer la phrase, le mot qui peut-être vous a blessé ou choqué, alors que ça a duré 20 minutes et qu'on a mis des heures pour préparer. Vous voyez un peu? Il faut retrouver ce ministère. Ayez le ministère de l'encouragement. Essayez d'encourager un frère, une sœur, quelqu'un qui est là. Et puis, nous allons voir que, puisque vous donnez la priorité aux choses de Dieu, et c'est ce qu'il Agé va leur dire, qu'est-ce qui se passe quand on donne la priorité aux choses de Dieu? Il va leur faire 4 promesses. Et c'est assez simple, elles sont là. 4 promesses, si nous donnons la priorité au Seigneur et à son œuvre. La première promesse, il leur dit, « Travaillez, dit l'Éternel, car je suis avec vous. » Ce n'était pas la première fois qu'il le dit. Il l'a dit quelques semaines auparavant, quand le peuple a commencé, quand il a repris le peuple. « Je suis avec vous. » Notre Dieu est un Dieu de fidélité. Il a promis sa présence. Il est là. Notre Dieu a pris des engagements qu'il ne reniera jamais. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite. De quoi avons-nous besoin? Nous nous réjouissons. Jésus, ta sainte présence, c'est la source du bonheur. On a des tellement de cantiques et de chants qui parlent du bienfait de la présence de Dieu. Est-ce que nous réalisons que le Seigneur est ici? Mais est-ce que nous réalisons que le Seigneur est aussi quand je suis dehors? Vous avez parfois de ces chrétiens qui sont très bien dans l'église. Ils arrivent dans l'église, ils parlent doucement, ils parlent bien, ils parlent gentiment. Une fois qu'ils sortent de l'église, pam, 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 ils vous en sortent. Le Seigneur n'est pas là. Mais il est là. Et nous devons prendre conscience de la présence continuelle du Seigneur. Malachie, le troisième des prophètes d'après l'exil. Chapitre 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Jésus a dit, je suis avec vous, le dimanche matin de 10h à midi. Et quand vous allez à la réunion de prière, en dehors de cela, peut-être je serai avec vous. C'est cela qu'il a dit. Je suis avec vous tous les jours. Nous devons réaliser que dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur est là. J'ai appris que certains frères ou certaines sœurs vont sur le marché, table de littérature. Vous n'êtes jamais seul derrière votre compteur, devant votre comptoir. Le Seigneur est là. Vous faites quelque chose pour le Seigneur, il est là. Vous êtes peut-être tout seul ou toute seule en train de brosser le temple. Vous n'êtes pas tout seul, il est là. Il a promis sa présence. Et nous devons prendre conscience de cette présence divine. Cette présence qui nous est toujours rappelée. La Bible dit aussi, il est près de tous ceux qui l'invoquent. Parfois, on entend des chrétiens, vous entendez cela. Moi, j'ai l'impression que le Seigneur m'abandonne. J'ai l'impression, le sentiment qu'il n'est plus là. Vous avez parfois ce sentiment? C'est de votre faute, parce que vous vous fiez plus sur vos sentiments que sur ce que Dieu a dit. Il a promis sa présence, que vous le ressentiez ou pas. Ça ne dépend pas de vos sentiments à vous, ça dépend de sa promesse à lui. La base, ce n'est pas ce que vous croyez ou croyez pas, c'est ce que lui a dit dans sa parole. Seigneur, tu as dit que tu étais là, je le sais, je le crois. Oui, mais vous savez, moi j'ai l'impression que le Seigneur, il me semble loin. D'accord. Qui est-ce qui s'est éloigné le premier? Peut-être que c'est nous qui nous éloignons. Parfois ce n'est pas vrai, parfois c'est lui qui s'éloigne. Et la Bible le dit, parfois il s'éloigne pour voir où on en est. Est-ce qu'on va vraiment chercher après? Est-ce qu'on a vraiment à cœur de retrouver sa présence? Retrouver, rechercher la présence du Seigneur, le mettre en premier. Le mettre en premier, il est là. Il a dit, je suis là, je suis avec vous, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Saisissez ces promesses, acceptez-les dans votre cœur, acceptez-les dans votre quotidien. Il a promis sa présence, il est là, point, c'est tout. Ça ne dépend pas si vous le ressentez, vous ne le ressentez pas. Et si vraiment vous dites, le Seigneur est loin, peut-être que c'est à moi de le rechercher. Seigneur, je t'aime. Ça, c'est un retour du cantique des cantiques, vous vous souvenez, où le bien-aimé s'est retiré. Et comment est-ce qu'elle l'a retrouvé? Elle a cherché après. Si vous perdez votre portefeuille, qu'est-ce que vous allez faire? Vous perdez vos clés. Quand on perd le Seigneur, on attend qu'il revienne. Cherchez après. C'est pas plus difficile. La vie chrétienne, elle est simple dans ce sens que si nous cherchons, il se laisse trouver. Et je crois que nous avons besoin de la présence du Seigneur. Mettre Dieu en premier. Vous connaissez la devise de Jeanne d'Arc? Messire Dieu, d'abord servi. C'est chouette, hein? Messire Dieu, d'abord servi. Elle avait une belle devise, hein? Et si on en faisait notre devise aujourd'hui? Pas pour finir comme elle, mais au moins pour dire, voilà, hein, Dieu d'abord. Puis la deuxième chose qu'il promet, je reste fidèle, avez-vous peut-être précisé, si nous recherchons le Seigneur, comment est-ce que je peux le rechercher? Par son esprit et par sa parole. Ainsi parle l'Éternel. Et puis, mon esprit est au milieu de vous. Recherchez au travers de la parole. Retrouvez la lecture. Soignez votre relation personnelle avec le Seigneur. Prenez 10 minutes le matin pour lire la Bible. Un quart d'heure. Retrouvez cette communion. Se nourrir de la parole de Dieu. J'ai une amie qui est institutrice. Elle est chrétienne. Elle travaille à Binche. Et cette institutrice, elle aime le Seigneur et le matin, elle dit, je commence ma journée par une demi-heure de lecture biblique. Et puis, elle adopte un petit enfant. Elle en a adopté un deuxième, elle a adopté 3 enfants. Et avec son mari, ils forment une chouette famille. Ils ont trois enfants. Et elle me disait, avec mes trois enfants, le matin, j'ai plus le temps de lire ma Bible. Alors, je me lève une demi-heure plus tôt. Avant que tout le monde ne se lève, elle prend ce temps de lire sa Bible une demi-heure avant que les enfants ne se lèvent. Mais il faut le faire, hein. Il faut le faire. Mais elle soigne sa relation personnelle avec le Seigneur. Je crois que nous avons besoin de cela. Prenons du temps pour lire cette parole qui est vivante. C'est une source de vie. Vous savez, on ne le fait pas toujours très régulièrement. Je dois confesser qu'à certains moments, je me lève et puis j'ai pas tellement le temps. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis alors je m'étonne quand ça ne va plus très bien dans... Ah, il faut que je revienne. Et je reviens à la lecture. Et je reprends un texte. Allez, on va lire un livre. Vous savez, ces derniers temps, j'ai lu au moins une dizaine de fois le livre d'Agé, ce qui m'a obligé à lire Zacharie, ce qui m'a obligé de lire Malachie, ce qui m'a ramené à Esdras. Alors je dis, bon, maintenant je reprends un petit peu de Nouveau Testament pour moi-même. Mais on a besoin, pas seulement pour les autres, mais pour soi-même, soigner notre vie spirituelle. Deuxième bénédiction, qu'est-ce qu'il promet ? Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations. On a déjà là une perspective sur l'avenir. Ça va revenir plus tard, c'est une perspective qu'on appelle eschatologique. Nous sommes dans la fin des temps où Dieu va intervenir. Et Dieu va intervenir, et il va intervenir en nous disant, je vais bouger les choses. Et nous savons que nous sommes dans ces temps de la fin où Dieu va bouger les choses. Première réaction, ne craignez point. On a peur pour nos enfants, pour nos petits-enfants dans le monde dans lequel on vit, hein. Mais que ça va mal. De pis en pis, ah bon. Alors on vit dans la crainte. Mais notre Dieu est celui qui domine. Je prie pour mes enfants, je prie pour mes petits-enfants, je peux rien faire plus. Mais je ne veux pas vivre dans la crainte, parce que je crois en amour de Dieu qui peut les protéger, qui peut les aider. Je crois dans cette fidélité de Dieu, mais je crois aussi dans cette puissance de Dieu qui est capable, ne craignez pas. Ça revient combien de fois dans la Bible ? Ça, vous devriez le savoir. 365 fois. Pas moi qui le dis, ce sont les Américains. Trois fois, 365 fois est écrit, ne crains pas, ne craignez pas, n'ayez, soyez sans crainte. Vous ouvrez un œil demain matin, ne crains pas. Mais c'est de la vitamine, hein. Vous ouvrez un œil après-demain, ne crains pas. Mais c'est du beefsteak spirituel, ça. Et Dieu dit, mais ne craignez pas. J'ébranlerai les cieux. Il est le Seigneur Tout-Puissant. Il a créé les cieux et la terre. Il est l'Éternel des armées. C'est la semaine dernière où on nous a dit que les hommes découvraient de nouvelles galaxies. Tous les jours, les savants font de nouvelles découvertes, de nouvelles galaxies dans un univers où il y a des myriades d'étoiles. Et mon Dieu donne un nom à chacune de ces étoiles. Et les scientifiques nous disent, nous connaissons à peine 5% de tout ce qui est dans le ciel. 5% de tout ce qui est dans le ciel ? Il est mon Dieu tout-puissant. Pourquoi est-ce que vous voulez que j'aie peur ? Pourquoi avoir peur ? Pourquoi avoir peur quand la tâche nous semble difficile ? Travailler dans l'œuvre de Dieu, mais c'est dur, c'est vrai. Et travailler pour ceci et cela dans l'Église, c'est difficile. Mais notre Dieu est le Dieu qui est tout-puissant. Et Dieu dit, mais moi je vais rétablir les choses. Le monde dans lequel nous vivons, je vais le bousiller, je vais le bouger. Je vais l'ébranler. Il est le maître des nations. Il tient les rois dans sa main. Et nous vivons dans la crainte et dans la peur. Le Dieu que nous servons n'est pas comme ça. Il est le Dieu tout-puissant. Et si nous mettons Dieu en premier lieu, Messire Dieu d'abord servi, cherchez, dit Jésus, premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste, il va vous le donner, il est tout puissant. On devrait balayer, n'est-ce pas, nos craintes, même devant la tâche qui attend le chrétien dans le monde. Troisième problème ou troisième promesse. Nous allons travailler pour Dieu. Il faut bâtir l'église. Ça coûte combien? C'est cher, hein? Construire le temple, c'était cher. Pourtant, Dieu avait dit qu'il donnerait ce qu'il faut. Et il a promis de donner ce qu'il fallait. Déjà, avec Cyrus qui a donné l'ordre de repartir. Et si vous avez vu le début du chapitre 1, il y a tout ce qu'ils ont déjà repris. Voilà, simplement, regardez le chapitre 1, verset 3. « Tous leurs voisins, donc les voisins d'Israël, leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail, des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. » Chapitre 1, verset 7 d'Esdras. « Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nébuzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. » Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Midétracte, le trésorier, qui les remit à Shébatsar, prince de Juda. Voici le nombre. 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'argent et d'or étaient au nombre de 5400. Et puis un peu plus loin, avec la reprise du travail sous le roi Artaxerxès, le roi dit, il faut pourvoir à tous les besoins du temple. Il faut pouvoir, et il n'y a pas d'impôt, on va travailler. Lisez le chapitre 7 d'Esdras. Notre problème, c'est un problème de moyens. Nous n'avons pas les moyens. C'est vrai, nous ne les avons pas, soyons clairs. Mais Dieu les a. L'argent et l'or sont à lui. Nous avons un Dieu qui est capable de pourvoir à tous nos besoins. Nous manquons de vision dans ces ressources que Dieu peut donner. Et je crois que les chrétiens parfois se retranchent trop facilement derrière cela pour ne rien faire. Bon, on n'a pas les moyens. Bon, on ne fait pas, on n'a pas grand-chose. Il faut foncer, oui, mais ça coûte. Et alors ? Si c'est l'œuvre de Dieu, on avance. Je cite un exemple. Il y a un mois et demi, nous avons invité le groupe Sel et Lumière pour venir passer la journée. Alors, bien sûr, quand on invite un groupe, ils étaient une vingtaine, c'est normal, on va servir un repas, surtout. Ils viennent du matin. On n'avait qu'à les inviter après-midi, on aurait gagné le dîner. Mais on les a invités du matin. Et puis, on s'est dit, on va leur faire quand même, on va bien les recevoir. Évidemment, quelques personnes. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va payer? Ouais, mais ça va coûter cher. Alors, on en a profité, on se dit, alors, on va leur servir l'apéritif et un dessert. Alors, bon. Et on a dit, on va faire des lasagnes. Et puis, hop, on a fait des lasagnes pour toute l'équipe, et puis pour ceux qui, dans l'église, voulaient. Et on en a fait plus en disant, on va faire cela, et s'il y a des gens qui veulent en racheter pour rentrer chez eux, pas tout, ils prendront. On en a fait un bon paquet. Alors, on a mis tous les comptes, le groupe est venu, ils ont bien mangé, moi aussi. Et puis, le soir, achat de marchandises et tout, on en avait pour 135 euros, 140 euros. Vente des lasagnes, 145 euros. On avait investi, on a retrouvé l'argent. On a toujours peur. Et quand c'est pour Dieu, c'est de l'à peu près. C'est du bon. Je vois la publicité, on veut nous vendre des paquets de margarine, c'est du papier glacé, quatre couleurs, c'est de la qualité, c'est beau. Et nous, on arrive avec des feuilles stencilées ou bien des... mes amis, comme si notre Dieu ne méritait pas plus. L'argent est à moi, l'or est à moi. On ne devrait pas s'inquiéter pour l'argent. Je vais vous dire quelque chose. Dans l'œuvre de Dieu, ce sont les 28 jours du mois les plus difficiles. Formidable, on apprend à compter sur le Seigneur. Et ça marche. Ça marche. Quand j'ai commencé l'institut, pardonnez-moi, je raconte ça comme témoignage. C'est pas pour dire que on fait tous nos expériences. Je quitte l'institut au mois de juin. J'avais 500 francs en poche. 500 francs. Bon, un peu plus de 10 euros. Le jour de mon mariage, j'avais 500 francs dans ma poche, c'est tout ce que j'avais. Heureusement, ma femme avait travaillé et bon. On commence notre ministère, on s'est marié le 3 août, on a vécu sur les réserves de ma femme. 1er septembre, je me lance dans le ministère, on a vécu sur les réserves de ma femme. Fin du mois d'octobre, quand même, le directeur de la mission dit « Je viens chez vous, ben, venez souper ». Et puis, mais comment vous vivez? Ben, oui, mais et votre salaire? Ben, on n'en a jamais parlé. Oh, ce n'est pas normal. Ben, il est temps qu'ils s'en rendent compte. Puis finalement, ils se sont mis d'accord. Nous vivions dans la maison, c'était la mission qui payait le loyer, ça c'était pas un problème. Mais on avait toutes les charges et le culte se faisait dans la maison. Et ils ont dit, ben, nous allons trouver trois églises. Et trois églises se sont cotisées. Et trois églises donnaient chaque mois 50 euros. La Louvière, Charleroi, Châtelet. J'ai une dette de reconnaissance envers ces chrétiens. On avait 150 euros pour vivre tout le mois. C'était pas facile, hein? Eh bien, mes amis, je regrette un peu ce temps-là parce qu'on a appris à compter sur la présence de Dieu, sur ses ressources. On a vécu des choses fantastiques. Dans le livre de Malachie, le peuple d'Israël dit « Qu'avons-nous gagné à servir Dieu ?» Et il est en train de faire les reproches. Qu'est-ce qu'on gagne à servir Dieu ? Franchement, on ne gagne rien. Si vous travaillez pour servir Dieu, pour gagner quelque chose, vous n'êtes pas des fils et des filles, vous êtes des mercenaires. Nous sommes les enfants de Dieu, un père qui pourvoit. Mes enfants m'ont donné une leçon une fois, sans se sont pas rendu compte, j'aurais pas dit. On avait du mal de clôturer le mois. Et voilà mes enfants qui rentrent, et puis Jonathan, le garçon qui arrive. Ah, j'ai faim. Il va au frigo, il regarde ce qu'il y a, il trouve un fruit, il le mange. Ma fille arrive. Maman, j'ai faim. Elle demande rien, elle va au frigo. Elle prend l'autre fruit. Et finalement, je me dis, mais c'est ça. La foi, c'est ça. Ils ne s'inquiétaient pas de savoir si on avait assez ou pas. Ils vont au frigo, ils servent. Spirituellement, quand j'ai une faim de Dieu, je vais au frigo. Servez-vous. Notre Dieu est tout puissant. Il est capable de donner ce dont nous avons besoin. Cessez de vous inquiéter pour des questions d'argent. Mettez Dieu en premier, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Et il n'est pas menteur, n'est-ce pas? Et il a la puissance. Mon Dieu, dit l'apôtre Paul, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous avez besoin d'une voiture? Demandez au Seigneur une voiture. Demandez-lui. Vous avez besoin de ceci ou de cela? Demandez-lui. Pourquoi? Fernand le Grand, vous avez connu Fernand le Grand? Prédicateur extraordinaire, n'est-ce pas? Il nous disait, quand j'ai besoin d'une voiture, j'avais une vieille voiture, et j'ai dit, Seigneur, donne-moi une voiture parce que la mienne, elle va rendre l'âme. Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais une Citroën. Je trouvais ça formidable de donner ses goûts au Seigneur. Et alors, plus tard, il nous disait, Seigneur a répondu, mais il a dit deux chevaux. C'était pas mal, n'est-ce pas? Dieu promet sa présence. Dieu promet sa puissance. Dieu promet ses ressources. L'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel des armées. Et la quatrième promesse, elle est fantastique. Verset 9. la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Pensez à la gloire du temple de Salomon. Magnifique, splendide, quelle richesse, quelle sagesse, quel travail magnifique. C'est devenu une ruine, on n'a rien pour rebâtir. On y va, et Dieu dit, la gloire de cette maison sera plus grande. Dieu promet une transformation de la situation. Il transforme une situation, quelque chose qui nous semble petit, insignifiant. Il peut transformer toute situation. Et il veut le faire aussi. La gloire de cette maison sera plus grande. Comment est-ce que cette gloire a été plus grande? Parce que c'est dans ce temple, qui va être un petit peu abîmé plus tard, qui va être remis en état par les Romains, c'est dans ce temple que Jésus va venir et qu'il sera présenté. C'est dans ce temple qu'il va enseigner. Jésus est la gloire d'Israël, dit le père de Jean-Baptiste, Zacharie. C'est vrai qu'il y a une vision qui est eschatologique, qui donne dans le futur, la gloire sera plus grande. Mais au travers de la venue de Jésus, la gloire de Dieu se manifeste encore plus que dans le temple de Salomon. Salomon n'a pas connu Jésus dans son temple. Mais ici, ils vont le connaître. Tout au moins, ils ne vont pas le connaître dans le sens de le voir. Jésus va naître quelques 450 ans plus tard. Mais la gloire est là. Et le Seigneur va se manifester. Et quand, au travers de l'Empire romain qui sera bouleversé, et la venue de Jésus, ça a bouleversé l'Empire romain, ça a bouleversé le monde. La venue de Jésus bouleverse encore le monde, aujourd'hui, depuis 2000 ans. Mais c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, parce que c'est Jésus qui est le prince de la paix. Notre problème comme chrétien, vous me pardonnez de le dire comme ça, c'est notre manque de vision de ce que Dieu fait. On est toujours en train de nous admirer le nombril dans notre petite église, et dans ceci, et dans cela. On ramène à nous, regardez vers le Seigneur. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il peut faire. Regardez, c'est au travers de sa parole ce qu'il va faire. Et nous allons voir un Seigneur qui agit aujourd'hui, en 2016. Il agit, il est vivant, il est toujours le même. C'est toujours le grand Dieu des cieux qui bouleverse, qui accomplit son plan, qui est capable et qui un jour va bouleverser les nations, mais qui va aussi créer, donner la paix. Et Jésus est et reste notre paix, la paix pour nous, la paix dans nos cœurs. Mais on sait bien que ce n'est pas les Nations Unies, ce n'est pas l'UNESCO ni tout ça qui vont résoudre les problèmes de paix dans le monde, hein. C'est le prince de paix, c'est Jésus. Alors ça devrait nous inciter aussi à servir Jésus qui est le prince de paix. Ça devrait nous inciter à œuvrer davantage pour ce qui est l'œuvre de Dieu. Seigneur, donne-moi d'avancer dans ton œuvre. Donne-moi de m'investir dans ton œuvre. Donne-moi cette vision de ce que tu es en train de faire et alors nous verrons les choses arriver. Donnez la priorité au Seigneur. Et retirer des encouragements. Dieu promet sa présence, il promet sa puissance, il promet ses ressources, il promet de transformer la situation. Est-ce que nous n'avons pas besoin d'un tel encouragement? Alors prenons-le de sa part.